Chapitre 8. Triste soir. Ferdine aimait ses heures de travail, son petit bureau tranquille et frais. Elle aimait l'arrivée du courrier, les lettres d'affaires l'intéressaient, surtout si elles contenaient quelques termes encore inconnus qu'il fallait déchiffrer et comprendre. Sa besogne journalière était une étude juste assez ardue pour occuper son intelligence sans l'absorber entièrement. Ferdine se plaisait aussi à suivre le va-et-vient du grand bureau, à écouter la voix un peu tremblotante de M. Nantu. Elle s'intéressait à la grande cour dallée de la fabrique où les ouvriers mangeaient leurs morceaux de midi quand le temps était beau et dans laquelle on pouvait jeter un coup d'œil à travers la grille des jardins. Sa course matinale, 10 minutes à peine, par ce chemin vert qui, sous les frênes, descendait vers la fabrique et la rivière, lui était un plaisir quotidien. Quand elle en avait le temps, elle faisait 2 ou 3 fois de suite ce petit trajet, montant et descendant le chemin, et quelquefois relisant, dans cette jolie solitude des prés et des arbres, une lettre reçue la veille de tante Cornélie, ou de Siméon, ou de mademoiselle Octavie. Souvent, à midi, quand Ferdine sortait du bureau, elle trouvait, se promenant une ombrelle à la main dans l'allée de gravier bleu, l'excentrique Lucienne, pour laquelle elle sentait une croissante sympathie. « Puis-je vous accompagner un bout de chemin ? Nous ne déjeunons qu'à 1 heure et je n'ai rien à faire en attendant, » disait Lucienne qui semblait, elle, se défendre d'un penchant pour Ferdine et le couvrait de toutes sortes de prétextes. Elles avaient bien des sujets d'intérêt commun, leur lecture, les gens du village, les dames du château pointu. La conversation de Lucienne était toujours intéressante, mais on y démêlait, même sous la plaisanterie, une note continuelle d'ennui, presque d'amertume. Si Ferdine racontait en riant quelque épisode du bureau, quelque bévue de son inexpérience, Lucienne faisait d'un ton de raillerie « Que diriez-vous si je demandais votre place à papa ? Moi qui ne suis bonne à rien, je serais peut-être bonne à cela. » « Je dirais que vous m'ôtez le pain de la bouche, » répondait Ferdine, feignant que tout cela ne fût qu'un badinage. Lucienne revenait parfois à cette idée qu'elle avait émise d'abord comme une boutade de fonder une association de jeunes filles utiles, et Ferdine, dont l'enthousiasme intuitif groupait instantanément des images autour d'une notion abstraite, Ferdine s'écriait tout d'un élan « Mais commencez donc tout de suite !»« Les éléments abondent, » faisait Lucienne avec ironie. « Nous serions 6 membres fondatrices. Vous d'abord qui travaillez, mais vous ne pouvez faire autrement et ça ne compte pas. » Louise Miserlet, qui regarde les hirondelles voler autour de sa tour ronde, ma sœur Idonie, qui passe ses jours à attendre, dans des attitudes de vitrail, le bel inconnu, Jeanne-Marie, qui brode d'arabesques jusqu'au torchon de son futur ménage, et Julotte. Oui, Julotte fréquente du moins la cuisinière et pourrait faire une omelette si nous étions jetés sur une île déserte, mais Julotte, non, non, on ne peut dire que ses talents aient encore contribué à l'amélioration du monde. Pour finir, il y a moi, fondatrice et présidente de ce groupe de jeunes filles utiles, dont le règlement central serait « Travailler chaque jour pendant 2 heures au bien du prochain ». Comment, s'écria Ferdine, ce serait aussi beau que cela, le bien du prochain? Je croyais qu'il s'agissait simplement d'une activité quelconque, artistique ou domestique, ou de lecture sérieuse. Oui, ma chère, ce serait aussi beau que cela. Malheureusement, cela ne sera pas. Qui sait, dit Ferdine. Oh, je voudrais que mademoiselle Octavie vous entendît, elle aurait 1000 encouragements à vous donner. En général, Ferdine achevait à peine son repas de midi, repas appelé le lunch par l'aristocratique madame Beaugivy, que Louise arrivait tout courant pour passer avec sa Ferdine l'heure de la sieste. Après s'être embrassées comme si elles ne s'étaient vues d'un an, elles s'asseyaient en face l'une de l'autre, les mains dans les mains, et Louise alors, toujours anxieuse, interrogeait. « N'es-tu point trop fatiguée? Chacun est-il aimable pour toi ?»« Oh, Ferdine, si tu te sentais trop malheureuse, tu me le dirais, n'est-ce pas ?» Elles se montraient toutes leurs lettres, se confiaient toutes leurs impressions, c'est-à-dire que Ferdine avait beaucoup à raconter et que son amie l'écoutait. La vie de Louise était fort monotone et n'eût pas fourni matière à une chronique bien ample. Quand l'heure du bureau approchait, Louise accompagnait Ferdine jusqu'au bas du chemin vert, puis lui disait adieu avec effusion. Par malheur, elle était poltronne, et pour rien au monde, elle ne fut descendue seule, le soir, de Château-Pointu au village. Monsieur Antoine n'était plus assez jeune pour qu'elle le priât souvent de l'escorter. De plus, Madame la Douairière avait une peur affreuse qu'il ne passât au cabaret le temps que durait la visite. « Demande-lui plutôt d'aller chercher ton ami, disait-elle à Louise. Vers 10 heures, il la reconduira. » Mais Ferdine était lasse le soir, ou bien elle avait quelques petites besognes domestiques, quelques raccommodages. Elle ne disposait que des heures du soir pour tirer l'aiguille. Aussi ne montait-elle guère à Château-Pointu qu'une fois la semaine, sans compter le dimanche, bien entendu. Les soirs étaient tristes. Malgré un propos bien arrêté de se trouver heureuse, Ferdine ne pouvait se dissimuler que les soirs étaient tristes, la solitude peuplée de souvenirs plus amers que doux. « Oh, mon cher papa ! Oh, Siméon, mon frère » murmurait-elle parfois, laissant tomber son aiguille. Et tout semblait se décolorer, la vie n'avait plus ni sens ni intérêt. Qu'était-ce que l'avenir ? Une monotone répétition du jour présent, du triste soir, une perpétuité de solitude. Pour essayer de se faire rire, Ferdine se disait parfois « Lucienne prétendrait que je soupire aussi après le bel inconnu. Mais ce n'est pas cela. Oh, ce n'est pas cela. Je souhaite quelque chose qui m'absorbe davantage, qui m'intéresse et me prenne jusqu'au fond de mon être une vraie raison de vivre enfin. » Cependant, je ne vois pas que d'autres l'aient plus que moi, cette vraie raison de vivre. Au contraire. Et puis, il y avait en Ferdine des besoins de tendresse et d'activité qui ne trouvaient pas à se satisfaire, même dans l'intimité de Louise. Quand Louise disait à son amie, et elle le disait fréquemment, « Tu me suffis ?» Ferdine restait bouche close, craignant de mentir. Non, cette amitié ne lui suffisait pas. Elle s'en rendait compte trop clairement, elle en souffrait. Elle y pensait tout le soir parfois et s'accusait d'être ingrate. « J'ai le caractère mal fait », se disait-elle. Souvent, elle pleurait, notre pauvre petite Ferdine, puis elle s'indignait de ses attendrissements sur elle-même. Le silence de la chambre lui devenait intolérable. Elle ouvrait alors sa fenêtre pour écouter le silence du dehors, et cette obscurité pointillée de petites lumières rendait plus intense le sentiment de sa solitude. Pas une âme, sous ses toits de ferme ou d'ouvrier, dont elle sut même le nom. Là-bas, chez elle, elle connaissait au moins chacun, et chacun la connaissait, et le soir, bien des portes ouvertes l'eussent accueillie avec bienvenue. Dans la chambre voisine, Madame Beaugivy, fatiguée d'avoir été tout le jour la dame très bien, vivante avec distinction d'un trop petit revenu, Madame Beaugivy dormait depuis une heure ou deux. Ferdine l'entendait respirer avec une régularité majestueuse. Monsieur Nantu, qui faisait chaque soir sa partie d'échecs avec le maître d'école, rentrait au coup de 10 heures. Alors Ferdine se couchait, ayant épié le petit grincement sec de la clé dans la serrure d'en bas et le frottement de l'allumette avec laquelle Monsieur Nantu allumait sa bougie au pied de l'escalier. Et le lendemain matin, comme Ferdine avait 20 ans et un excellent sommeil, elle se réveillait, voyant de nouveau la vie presque en rose.